Vous êtes sur RTL. RTL Midi, Amandine Bégaud, Pascal Pro.
12h30, 14h30, bonjour à tous. 2 heures d'infos, de débats, mais aussi d'opinions avec les auditeurs. L'info avec Amandine Bégaud tous les jours jusqu'à 13h. Bonjour Amandine.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Et à la une, Emmanuel Macron devant le Parlement européen de Strasbourg. Nous serons sur place dans un instant. Arnaud Montebourg qui renonce. Et puis un coup de filet chez les antivax.
Nos deux sujets du jour, d'abord l'essence. Vous verrez qu'en 1973, les carburants nous coûtaient plus cher qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, à 12h50, débat autour des déprogrammations à l'hôpital. A-t-on sauvé des vies au détriment d'autres ? Nous serons avec le professeur Lantieri.
Notre question du jour sur RTL.fr, elle concerne la hausse des prix des carburants. Pouvez-vous moins utiliser votre voiture ? Vous dites non à 61%, oui à 32%. La météo du jour, c'est avec vous, Peggy Broche. Bonjour Peggy.
Bonjour Amandine.
Et c'est tout gris.
Et oui, ça va le rester toute la journée avec en plus l'arrivée de quelques pluies entre la Bretagne et le Nord cet après-midi. Quelques gouttes également sur le littoral provençal et de la façade atlantique au nord-est, un temps bien couvert avec encore un peu de bruine localement, quelques flocons toujours entre le massif central et le nord-est. Et pour avoir du soleil, parce qu'il y en a un peu, il faut être en montagne, sur les Pyrénées et surtout sur les Alpes, le tout sous des températures proches des valeurs de saison, de 3 à 9 degrés sur l'ensemble du pays, jusqu'à 14 près de la Méditerranée.
Et promis, demain ce sera un peu mieux. Promis. Vous me direz ça tout à l'heure à 13h.
RTL Midi.
Mais pour commencer, donc direction Strasbourg. Et ce discours d'Emmanuel Macron, le président a défendu devant les députés européens ses priorités pour les 6 prochains mois.
20 ans après la proclamation de notre charte des droits fondamentaux, qui a consacré notamment l'abolition de la peine de mort partout dans l'Union, je souhaite que nous puissions actualiser cette charte, notamment pour être plus explicite sur la protection de l'environnement ou la reconnaissance du droit à l'avortement.
Bonjour Bénédicte Tassard.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes sur place pour RTL, vous avez bien sûr suivi ce discours. C'est un président très solennel qui a pris la parole, conscient des risques à venir.
Oui, le président a mis en exergue 2 idées fortes. D'abord, un nouvel ordre de sécurité et de stabilité européen. Dialoguer avec la Russie sur le sujet des tensions en Ukraine. Un dialogue exigeant et rejetant les manipulations russes. Car attention, prévient Emmanuel Macron, notre territoire est inviolable. Et puis, il faut renforcer nos valeurs.
Qu'il ne s'agit pas de laisser s'installer l'idée que l'état de droit serait au fond une invention de Bruxelles, dont le seul dépositaire serait Bruxelles, qui est un discours que nous entendons naître dans certaines capitales. Non, c'est le fruit de nos histoires à tous. L'état de droit est notre trésor.
Des voix s'élèvent pour ébranler nos textes fondamentaux. Nous ferons tout pour les défendre, a conclu le chef de l'État, avant d'écouter maintenant les remarques de 48 eurodéputés de tous bords, avant de leur répondre.
Bénédicte Tassard, chef du service étranger de RTL, spécialiste des questions européennes. Et déjà les premières critiques politiques après ce discours. Jean-Luc Mélenchon qui dénonce un discours usé. Fin de citation. Au même moment ou presque, Arnaud Montebourg jetait l'éponge. Bonjour William Galibert.
Bonjour.
La remontada, c'est fini. Il ne sera pas candidat à la présidentielle.
Oui, il vient de le confirmer dans une vidéo. Arnaud Montebourg, il marche seul. Chez lui, au sommet du mont Beuvray, il y a encore un peu de neige. Il a mis ses chaussures de randonnée et son regard dans le vague s'échappe vers les plateaux du Morvan, enveloppés dans le brouillard.
Je suis venu ici, sur cette terre qui m'est chère, vous dire que je n'ai pas réussi à unir dans un programme commun ma candidature à d'autres candidatures. Le moment est donc venu pour moi de vous dire que j'ai pris la décision de me retirer de la course présidentielle.
Voilà, c'est fini, c'est tout sauf une surprise. Les sondages faisaient du rase-motte autour de 0,5%. Ses soutiens l'avaient lâché après sa proposition d'interdire les transferts d'argent privé vers certains pays. Proposition dite Western Union qui avait beaucoup choqué à gauche. Et les discussions avec Christiane Taubira ou encore avec le communiste Fabien Roussel n'ont jamais abouti.
J'ai décidé de ne soutenir aucun candidat, puisque ses perspectives tracées pour le pays ne sont pas partagées.
Arnaud Montebourg retourne à l'entrepreneuriat, c'est là qu'il avait fait son miel ces dernières années. Dit-il, définitivement adieu à la politique ? Eh bien, on ne sait jamais. Il conclut, vive la République, vive la France et à bientôt.
William Galibert du service politique de RTL.
Politique toujours, mais cette fois à droite. Et pour redonner du pouvoir d'achat, Valérie Pécresse propose que les salariés qui le souhaitent puissent convertir leur RTT en salaire.
Une nouvelle version du travailler plus pour gagner plus. Une bonne idée, dit ce midi Thibault Langsade, ancien dirigeant du MEDEF et patron de Lumines, qui compte aujourd'hui 3 000 salariés.
Je pense que c'est plutôt une bonne mesure, puisque ça introduit de la simplicité sur le temps de travail et sur le pouvoir d'achat qui peut y être associé. Je pense que ça peut offrir, en fonction des typologies d'entreprise, la possibilité de pouvoir récupérer du temps de travail sur des projets, sur de la production, et donc ça peut être très significatif. C'est une mesure qui est aisée à mettre en œuvre compte du fait que l'ensemble des mécanismes existent. Restera à savoir quel sera le régime de fiscalité qui s'appliquera.
Thibault Langsade au micro RTL d'Éric Vanier. Alors cette proposition, Valérie Pécresse l'a faite hier soir sur BFM TV face à Jean-Jacques Bourdin qui fait désormais l'objet d'une enquête pour des soupçons d'agression sexuelle, des faits qu'il nie. Il l'a d'ailleurs redit hier soir après ces mots de la candidate LR.
Je me suis clairement posé la question de ma participation à cette émission ce soir. Si ces accusations sont avérées, elles sont graves et elles doivent être condamnées. Trop longtemps, la société a regardé ailleurs, a fermé les yeux. Et présidente de tous les Français, je ne laisserai plus aucune femme avoir peur de porter plainte.
Bonjour Marie Mollet.
Bonjour.
Cette séquence, elle a été très largement commentée et plutôt appréciée visiblement chez les Républicains.
Oui, elle a du cran, du courage, elle a osé, pluie de compliments chez les élus LR après cette intervention yeux dans les yeux avec Jean-Jacques Bourdin. Elle a montré qu'elle savait mordre face à un homme réputé fort, assure un sénateur, tout en respectant la présomption d'innocence. Bref, plutôt un bon moment de campagne, hein, dixit un cadre LR, et ce n'est pas de refus. Au moment où Valérie Pécresse est parfois critiquée en interne pour son style très lisse, très première de la classe, je cite. Alors est-ce que cette intervention face au présentateur va donner un coup de fouet à sa campagne? Non, il en faudra beaucoup plus, hein, selon plusieurs élus LR. Il faut encore qu'elle fende l'armure. L'un d'entre eux, lui, était beaucoup plus mal à l'aise face au côté tribunal médiatique. Bourdin n'a pas été jugé et elle l'humilie en direct. Et ça, c'est très risqué.
Marie Mollet du service politique de RTL.
Notre chiffre du jour à présent, c'est ce nouveau record de contamination au Covid.
464 769 cas détectés en 24 heures. Bonjour Sophie Orange.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe? On croyait que le plus dur était passé.
On a tellement envie que ça baisse qu'on est impatient. Mais c'est vrai que plus 26% en une semaine, c'est beaucoup. La situation est compliquée à analyser, à expliquer, car en fait, Omicron n'a pas déferlé partout au même moment en France. On peut dire que là où ce variant s'est propagé rapidement, avant Noël, la tendance est à la baisse, avec des petits accros, mais ça baisse. Paris, Val-d'Oise, Seine-et-Marne, Haute-Savoie et Savoie à des plateaux encore très hauts, une incidence entre 3500 et 4000. Mais là où le variant Delta a résisté plus longtemps, la croissance continue très fortement. Les chiffres s'envolent parce qu'Omicron est très contagieux. Incidence multipliée par 7 en Vendée depuis Noël, multipliée par 4 dans les Landes, multipliée par 4 dans le Rhône, multipliée par 5 dans les Pyrénées-Atlantiques depuis le début de l'année. Donc forcément, on a des chiffres records, sans doute en plus sous-estimés par rapport à la réalité. Mais on s'accroche à ce qui s'est passé en Afrique du Sud et surtout au Royaume-Uni où la baisse de l'incidence a commencé au début du mois. Pour garder le moral, il ne faut pas suivre que l'incidence. Regardons ce qui se passe à l'hôpital où là, ça s'améliore clairement dans les services de soins critiques avec une baisse qui se confirme jour après jour des nouvelles admissions. Omicron provoque moins de formes graves. Le respect des gestes barrières reste impératif en limitant encore et encore le plus possible le nombre de contacts sans masque.
Regardons donc le verre à moitié plein. Non, merci voilà. Beaucoup Sophie. Sur le front judiciaire, vaste coup de filet chez les antivax. 8 personnes ont été interpellées. Toutes sont soupçonnées d'avoir harcelé des élus. Alice Moreno.
Oui, 2 hommes et 6 femmes qui ont été arrêtés dans plusieurs départements français. Ils ont entre 40 et 54 ans et sont soupçonnés d'appartenir à un même mouvement antivax particulièrement actif en ligne. Ils auraient harcelé 3 personnes, 2 élus et 1 médecin. Ils seront jugés prochainement pour harcèlement moral par un service de communication en ligne. Tous seraient rattachés à une mouvance anti-vax qui se fait appeler les VV, référence au film V pour Vendetta, dans lequel un justicier mène la révolte contre un État fasciste. Les VV sont nés sur des réseaux de messagerie cryptée. Ils compteraient plusieurs dizaines de membres sur notre territoire, avec comme méthode le harcèlement d'hommes politiques, de médias. Ils se définissent comme des guerriers, je cite, qui combattent la dictature nazie sanitaire.
Alice Moreno du service police-justice de RTL. Claude Guéant, lui, pourrait bientôt sortir de prison. La justice, en tout cas, examine aujourd'hui sa demande d'aménagement de peine. Et puis en Allemagne, c'est un ancien chirurgien syrien qui est jugé depuis ce matin à Francfort. Un médecin d'une trentaine d'années, poursuivi pour crime contre l'humanité. Léo Brauer-Potier a rencontré pour RTL l'avocat du frère d'une de ses victimes.
Mon client a été arrêté avec son frère à l'été 2011 et envoyé dans une prison des services secrets syriens. C'est là que le frère a fait une crise d'épilepsie. L'accusé, qui était médecin de la prison, est arrivé. Et au lieu d'aider, il a battu mon client et son frère jusqu'à ce que ce dernier décède.
Letztlich ist der Bruder meines Mandanten verstorben.
Des propos recueillis donc pour RTL par Léo Brauer-Potier. L'acteur Gaspard Ulliel, victime d'un accident de ski. Ça s'est passé hier sur le domaine de la Rosière en Savoie, mais on ne l'apprend que ce matin. Il a visiblement percuté un autre skieur au croisement de deux pistes. Âgé de 37 ans, le comédien a été transporté inconscient en hélicoptère au CHU de Grenoble. Pas plus d'informations pour l'instant.
Un peu de sport pour terminer.
Avec du hand et à la veille du début du tour principal de l'Euro face aux Pays-Bas, on croise les doigts dans les rangs de l'équipe de France. Un des joueurs, le défenseur Carl Konan, a été testé positif au Covid. On attend les résultats pour le reste de l'équipe. Ce sera sans doute dans les prochaines minutes puisqu'il y a une conférence de presse à 13h15. Et puis à l'Open d'Australie, c'est Gaël Monfils qui est sur le court en ce moment même. Et il mène 6-1, 3-0 face au Kazakh Bublik. Un peu plus tôt, Adrian Manarino a créé la sensation en éliminant le 11e mondial, le Polonais Urkacz. Défaite en revanche pour Benjamin Bonzi, Corentin Moutet et Harmonie Tan chez les dames.
Les deux sujets qui arrivent dans une seconde, le prix de l'essence. Eh bien, figurez-vous qu'en 1973, les carburants nous coûtaient plus cher qu'aujourd'hui. Débat ensuite autour des déprogrammations à l'hôpital. Est-ce qu'on va sauver des vies au détriment d'autres? Est-ce qu'on en a sauvé au détriment d'autres? Le professeur Roland Thierry sera notre invité. À tout de suite.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Pro.
Je prends toujours 15 litres, moi, 15 litres par 15 litres, et c'est vrai que l'année dernière, j'en avais pour moins de 20 euros, et puis cette année, bah, vous allez voir, voilà, 24,74. Bah, ça a pris 5 euros, quoi, pour 15 litres.
Et que l'on choisisse du sans-plomb ou du gazole, la règle est la même pour tous. Les prix des carburants s'envolent. Plus 24% depuis le début de l'année, tous les records sont battus et ça risque de continuer. Alors paye-t-on aujourd'hui notre essence vraiment plus chère? Dépense-t-on plus pour rouler? C'est le premier débat d'RTL Midi. Bonjour Christophe Bourreau.
Bonjour.
Vous êtes notre spécialiste auto ici à RTL et vous avez regardé les prix depuis 1973 comparé au salaire moyen. Qu'est-ce que ça donne?
Alors, si on se base sur le SMIC, l'essence est moins chère aujourd'hui. Et oui, c'est ce que démontre une étude réalisée par le chercheur et économiste Yves Crozet. En effet, avec une heure de SMIC, il y a 40 ans, on pouvait acheter 3 litres d'essence. Aujourd'hui, avec une heure de SMIC, on achète 6 litres d'essence, soit le double.
Et en plus, les voitures consomment moins.
Oui, alors vous vous souvenez peut-être de nos trajets où il fallait s'arrêter plusieurs fois à la pompe. Aujourd'hui, la plupart des parcours, même longs, se font avec un seul plein. En 70, une voiture consommait, allez, 10 litres au 100. Aujourd'hui, c'est deux fois moins. Donc non seulement on a deux fois plus d'essence, mais on peut faire deux fois plus de kilomètres qu'en 70.
Alors pourquoi ça cristallise comme ça?
D'abord, on roule beaucoup plus qu'au début des années 70, en raison de changements de mode de vie, mais aussi le développement du réseau routier, comme les autoroutes. Pour faire simple, les automobilistes parcourent désormais plus de 400 milliards de kilomètres par an. C'est environ 4 fois plus que dans les années 70, même si avec le télétravail, eh bien, ça se calme un peu. Et puis, de plus en plus de foyers possède une voiture, 86%. C'est une hausse de près de 10% en 20 ans. Et surtout, 40% possède une deuxième voiture. Chiffre lui aussi en hausse, qui correspond à un besoin pour se déplacer, pour emmener les enfants à l'école, pour se rendre au travail. Alors forcément, dans ce cas, le passage à la pompe fait mal, en particulier pour les plus modestes, puisque les dépenses de carburant n'absorbent que 3% du revenu des foyers les plus aisés, mais près de 10% des ressources des familles les plus modestes.
10%, ce n'est pas rien. Il y a aussi la valeur symbolique.
Oui, parce que tous les jours, vous voyez afficher le prix de l'essence.
C'est un
forcément
peu comme la baguette.
Voilà, sans mauvais jeu de mots, ça plombe le moral. Mais il y a d'autres points qui sont importants. Imaginez que si tous les jours on vous affichait le prix du joint de culasse ou de la plaquette de frein, on aurait des surprises parce que ce qui pèse le plus lourd dans le budget des automobilistes, c'est les réparations. Ça prend en moyenne plus 5% par an. Entre les prix des pièces de plus en plus complexes, de la main-d'œuvre, ça fait mal au portefeuille, tout comme d'ailleurs les tarifs des assurances, des PV, des parkings, des péages. Vous voyez, c'est tout cela qui se cumule au fond.
L'une des pistes, pour faire baisser les prix, c'est bien sûr de jouer sur les taxes, et on l'entend beaucoup dans le contexte de campagne électorale. Rien n'est exclu, a dit ce matin encore Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. Le problème, c'est que ces taxes, l'État en a besoin. Écoutez ce que disait tout à l'heure sur RTL la porte-parole de la Ligue de défense des conducteurs.
si on imaginait 5 centimes de moins aujourd'hui de taxes au prix à la pompe,
oui.
Ça voudrait dire sur un an 2,5 milliards en moins dans les caisses de l'État. Très clairement, l'État n'a pas les moyens de se passer des taxes sur les carburants. La taxe sur la consommation automobile aujourd'hui, c'est 86 milliards d'euros de recettes nettes fiscales dans les caisses de l'État. La moitié, ce sont les carburants. Donc de toute façon, l'État a besoin des taxes sur les carburants pour s'autofinancer.
86 milliards, on comprend que l'État ne veuille pas se passer de cette manne, non ?
Oui, compliqué de s'en passer, surtout que... Alors, il faut savoir que les taxes sur le carburant cristallisent la colère, mais il y en a d'autres qui font tout aussi mal, dont on parle peu, la taxe à l'achat d'un véhicule, celle sur l'entretien, et pour résumer au total, un quart du budget annuel de l'automobiliste est constitué de prélèvements et impôts, selon l'Automobile Club Association. On va prendre les deux stars du marché, Renault Clio et Peugeot 208, sur un budget de 100 euros, vous payez 27 euros de taxes.
J'ai fait un petit calcul, un automobiliste parcourt en moyenne 13 000 km par an. Il va en gros acheter 1 litres d'essence en 12 mois. S'il y a un écart de 20 centimes d'euros, il dépensera donc 200 euros supplémentaires en 12 mois, soit 16 euros de plus chaque mois. Alors j'ai l'impression effectivement qu'il y aurait peut-être d'autres manières de booster le niveau de vie des Français. Je pense au droit de succession ou des choses comme cela. Et ça ne me paraît pas 16 euros par mois en moyenne.
Alors, ça dépend comment on fait le kilomètre et ça dépend aussi. C'est vrai
moi, j'ai mis 13 000 en moyenne.
Hein. Non, mais c'est symbolique. C'est symbolique. C'est vrai que ça change tous les jours et que c'est vrai que ça fait mal quand on passe à la pompe. Surtout, on a plusieurs voitures. Mais moi, ce que je pense et ce que je viens de dire, ce que estiment les professionnels de l'automobile, c'est qu'il y a d'autres taxes qui sont très fortes. Quand vous allez faire réparer une voiture aujourd'hui, c'est extrêmement cher.
Oui.
Et ça, finalement, c'est ce qui pèse
l'assurance.
Le plus. L'assurance. Et peut-être
l'assurance, c'est cher.
Et l'assurance est extrêmement chère. Vous payez aussi le péage très cher. Et in fine, lorsque vous passez à la pompe, c'est un peu la goutte de pétrole qui fait déborder le vase. Hein,
donc, il faudrait se passer de voiture. Et en fait, beaucoup de gens pourraient peut-être se passer de voiture.
Dans tous les sondages, non. 8 Français sur 10 disent qu'ils ne peuvent pas se passer de voiture.
Alors, nous qui sommes parisiens, on peut se passer de voiture.
Ah bah oui, quand on est
mais
dans
c'est
les
vrai
grandes
que,
villes.
Exactement,
c'est facile, mais...
beaucoup de gens nous écoutent entre 12h et 14h et doivent bondir lorsque j'ai dit on peut se passer de voiture. Parce qu'effectivement... en région, c'est plus difficile que dans les grandes villes comme Paris. Merci Christophe Bourroux.
Merci.
Deuxième sujet dans une seconde. A-t-on sauvé des vies au détriment d'autres ? A tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
RTL Midi, avec Amandine Bégaud et Pascal Praud.
C'est ma maman qui me fait don de son rein. Ça va faire bientôt un an que je suis en dialyse et c'est vrai que j'attends plus qu'une chose, c'est d'être greffée. Comme il y a trop de patients en réanimation, qu'on repousse et j'ai l'impression que j'en sortirai jamais. C'est quand même une greffe, c'est pas rien, je demande pas à ce qu'on me refasse le nez. On a été mis de côté.
Comme Lolita, ils sont des dizaines de milliers, peut-être et sans doute plus, à avoir vu leur opération déprogrammée pour cause de crise sanitaire, des greffes, des interventions liées à un cancer ou toute autre maladie. Les cas sont divers et nombreux. Alors, en a-t-on fait trop ? Quelles sont les conséquences pour tous ces malades ? A-t-on sauvé des vies au détriment d'autres ? C'est le deuxième débat d'RTL Midi. Bonjour professeur Lantieri.
Bonjour.
Et merci beaucoup d'être en direct avec nous sur RTL. Vous êtes chef du service de chirurgie reconstructrice à l'hôpital Georges Pompidou à Paris. Comme tous les médecins de France, vous avez depuis 2 ans été contraint de déprogrammer, de repousser des opérations. Et aujourd'hui, vous dites, on va le payer très cher. Pourquoi ?
On va le payer très cher, surtout en nombre d'années de vie en bonne santé. Le critère qu'il faut voir, c'est pas uniquement le nombre de vies qu'on a sauvées. Est-ce que l'espérance de vie des Français a progressé ou n'a pas progressé pendant cette pandémie ? Mais surtout, est-ce que le nombre d'années de vie en bonne santé a régressé ou a progressé ? Et très probablement, il a régressé, que ça soit pour des pathologies dites déprogrammées comme une prothèse de hanche ou comme ce que j'entendais une greffe de rein, eh bien on voit que beaucoup de patients n'ont pas pu bénéficier des soins pendant ces 2 années et ça ne s'arrange pas. C'était déjà le cas avant la pandémie et l'épidémie a juste été un catalyseur des problèmes de l'hôpital en général.
On entend souvent que ce sont des opérations non vitales qui ont été reportées. C'est vrai ou c'est faux?
Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de dire ce qui est vital ou ce qui n'est pas vital. La patiente que vous interviewez, avec sa dialyse, elle est toujours en vie. Pourtant, avec une greffe rénale, elle vivra mieux. Et puis surtout, moi j'ai des exemples de patients qui n'étaient pas malades et que je n'ai pas opérés et qui sont devenus malades. Je fais, par exemple, de la chirurgie préventive du cancer du sein chez les patients à qui j'enlève le sein et que je reconstruis, comme Angelina Jolie. Ces patients ne sont pas malades. Et donc, je les opère plus tard, je les opérais plus tard. Et j'en ai plusieurs qui ont été opérés plus tard, à un stade où ils avaient un cancer. Alors que si on les avait opérés de manière préventive, ils n'étaient pas malades. Et ça, ce sont des exemples. Mais aussi, vous pouvez voir quelqu'un qui a une prothèse de hanche de 75 ans, qui ne peut plus monter ses escaliers, qui va perdre le goût à la vie et qui probablement mourra plus tôt parce qu'il n'aura pas fait tout ce qu'il pouvait faire. Donc, l'opération vitale, pas vitale, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens médical, ça n'a aucun sens en termes de santé publique.
Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Parce qu'on risque quand même d'être à nouveau confronté, même si là, les hôpitaux commencent à reprogrammer. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est le problème de fond de l'hôpital? C'est tout simplement ça? Enfin, tout simplement.
Alors d'abord, je voudrais toujours dire, les hôpitaux commencent à reprogrammer, c'est faux. Et quand on dit on déprogramme, c'est faux aussi. Ça fait, quand on a dit on va déprogrammer avec cette cinquième vague, non, ça fait des mois et des mois que nous ne programmons plus et que même les patients ne viennent plus. On voit petit à petit des gens qui renoncent à leurs soins, qui disent, ben finalement, je me ferai pas reconstruire. Moi, je fais beaucoup de reconstruction après cancer du sein, les patients viennent de moins en moins. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Je ne sais pas. En tout cas, c'est clair, c'est que ce qui a été fait est très notoirement insuffisant pour remettre correctement notre système de santé. Il faut le réformer de fond en comble.
Monsieur Lantieri, en vous écoutant, c'est est-ce que c'est une fatalité ou est-ce qu'on aurait pu faire différemment? Moi, je voudrais votre avis là-dessus et j'ai du mal à tout à fait comprendre comment on aurait pu faire autrement.
Alors, sur la première et la deuxième vague, moi, mon service a été transformé en unité Covid et avec ma volonté. C'est même moi qui ai pris l'initiative et c'était normal. Mais ensuite, quand on voit que ça dure, il y a un moment où il faut savoir faire des choix. Il y a un moment où on sait que nos moyens sont limités. On a 250 milliards pour la sécurité sociale, 50 milliards pour les mutuelles, ça fait 300 milliards, un peu plus, hein, 310, 320. Comment est-ce qu'on distribue cet argent? Comment on le répartit pour pouvoir avoir, au bout du compte, les meilleures capacités en termes de santé publique?
Donc il y a l'argent, mais il est mal réparti, si je vous entends bien?
Ben, si vous privilégiez simplement une seule pathologie, en oubliant les autres, c'est un problème. Vous pouvez pas juste dire, à partir du moment où il y a une nouvelle pathologie qui arrive, effectivement, il faut en prendre compte. Puis quand il y a un impact important, eh bien, c'est sûr qu'il faut mettre des moyens, il n'y a pas à se douter. Mais quand on a eu, dans les années 80, le sida, eh bien, on a créé des services de sida, et puis ensuite, on a réparti les moyens en fonction de ce que l'on avait, et puis tout le monde peut travailler sur les pathologies.
Donc, il a fallu augmenter sans doute le nombre de lits pour donner plus de place au Covid, parce que c'était une pathologie nouvelle, et pour pouvoir traiter les autres cas qui étaient les cas les plus classiques. C'est
mais
ça.
On nous dit qu'il n'y a pas assez de personnel pour le faire.
Alors c'est le problème aussi, c'est que le Ségur de la Santé a été très, très insuffisant. Quand vous distribuez des milliards et des milliards pour les restaurateurs, pour les boîtes de nuit, c'est très bien. Mais peut-être qu'il faudrait d'abord traiter le fond du problème, c'est-à-dire avoir un système de santé qui a les capacités d'absorber ces épidémies, d'absorber ces pathologies et donc mettre de l'argent dans ce système de santé. Je pense qu'on l'a mis, mais pas de manière la plus efficace.
Toute dernière question, professeur Lantieri, est-ce que vous êtes optimiste pour la suite, les mois qui viennent?
Pour les mois qui viennent, non. Pour les années qui viennent, peut-être, mais à condition qu'on fasse une vraie réforme de santé. Et pour l'instant, je ne vois pas réellement de réforme dans tous les candidats qui se présentent. On est toujours à vouloir contingenter, réguler les dépenses de santé, faire des objectifs de dépenses d'assurance maladie, alors qu'il faudrait faire des objectifs de santé publique avant et avant tout.
Merci monsieur Laurent Thierry et le public vous a découvert ces dernières années avec la reconstruction notamment du visage et ce que vous arrivez à faire aujourd'hui, ce que vous faites est tout à fait prodigieux et les progrès sont immenses ces dernières années dans ce secteur-là.
Dans d'autres secteurs aussi.
Merci.
Dans toute la chirurgie.
C'est vrai, mais merci en tout cas d'être intervenu.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité.
Thierry. Dans une seconde, le rappel des titres à 13h.
RTL Midi.
Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr.